premier sur l'info, le journal présenté par Cédric Vallax.
Le journal, bonjour Cédric.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Les associations antinucléaires et de protection de la nature défileront bien lundi pour accueillir François Hollande. Hier, elles se sont réunies pour préparer leurs actions et ont décidé de manifester sur plusieurs points du passage du chef de l'État. On restera avec la visite du chef de l'État en Polynésie française et cette question, François Hollande se rendra-t-il à la stèle de Tavararo? Le parti d'Edouard Fritsch s'appellera finalement Tapula Huiratira. C'est le choix de la majorité des élus du RMA et des Tavana qui soutiennent le président du pays. Un choix qui sera validé demain lors du congrès fondateur du mouvement. Un parti en chasse un autre. L'Assemblée Générale de Atyar Polignatia s'est réunie mercredi soir à la mairie de Papeete pour dissoudre la formation créée avant les territoriales de 2013. Et ce n'est pas totalement sans regret pour Tevaro Fritsch. Et nous terminerons plus légèrement en parlant culture et théâtre avec Un fou noir au pays des Blancs. Une pièce qui sera jouée dès ce soir au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Un événement à ne rater sous aucun prétexte.
Et on commence donc avec les associations qui manifesteront lundi pendant la visite de François Hollande à Tahiti.
Hier soir, les associations 193 et Molulu Waitatau ainsi que le syndicat Te Arutei Mareva se sont réunis pendant près de deux heures pour préparer ensemble l'accueil à réserver au président de la République. À l'issue de la réunion, les trois entités ont décidé à l'unanimité de manifester sur plusieurs points du passage du chef de l'État. L'association 193 ne cache pas être à l'initiative de ce mouvement pacifique. La rencontre avec le commissaire la semaine dernière s'était pourtant bien passée. Mais le vice-président de l'association 193, Michael Cotey, affirme que ses membres restent attachés à leurs revendications. Écoutez, il est au micro de Vaïté Oulali Ipambrin.
C'est bien que les décisions ont été acceptées par les autres associations de nous suivre.
Finalement, l'entrevue que vous avez eue avec le haut-commissaire ne vous a pas convaincu.
On voulait lui faire montrer qu'on est très attaché, en tout cas, à les revendications que nous avons émises au commissaire. Donc, nous allons rester sur ces points que nous avons soumis et voilà. Après, qu'ils nous disent le contraire ou autre chose, non, nous, on va rester sur ce que nous avons décidé, en tout cas.
Le président de l'association Molulu Waitatau, Roland Oldham, affirme qu'on essaie de les dissuader, de manifester, même pacifiquement. Mais pour lui, manifester est un droit et surtout, je cite, l'occasion d'exprimer ce que nous avons au fond de nous, notamment tous les problèmes poussés de côté par l'État. Roland Oldham affirmé hier soir ne rien attendre des annonces du président de la République sur le nucléaire.
Le discours de la présidence, c'est un discours de politique politicienne, hein. Ça c'est pour les élections, hein. Tout le monde le sait. C'est vraiment malheureux parce que s'il était vraiment sérieux, il ne va pas rester ici une demi-journée parce qu'il y a tellement de problèmes en Polynésie. Sur le nucléaire déjà, il devrait rester plusieurs jours. Il devrait aller visiter Hau, comme ça on lui montrait qu'il y a du plutonium là et tous les problèmes que les populations de Hau ont. Je dirais même que c'est l'arrogance habituelle, quoi.
Denis Helm, le président du syndicat Te Arutei Mareva, confirme également que des manifestations se tiendront lundi et indique qu'il est maintenant trop tard pour revenir en arrière.
Ils vont quand même pas dégager de personnes qui ne bougent pas, qui sont mobiles, non? Mais ils ont l'habitude de venir ici et qu'on leur remette des tikis, des péoué et des chapeaux. Donc, cette fois-ci, il faut leur montrer le mécontentement qu'on a sur Tahiti. Les tiarés, les péoué, ça suffit.
Même si un conseiller du président va vous recevoir.
Ça, on attend confirmation. Tout est officieux.
Si demain, on vous envoie officiellement une invitation à rencontrer un des collaborateurs du président de la République, est-ce que vous allez continuer à manifester ou pas?
Vu la discussion qu'on a eue ce soir, je pense que ça va être difficile de dire non maintenant, parce que là c'est trop tard. Les quatre associations se sont mis d'accord qu'on va venir avec nos banderoles. On se mettra là où on pourra se mettre, mais les banderoles différentes.
Selon nos informations, plusieurs zones de manifestation sont donc prévues et les associations devraient encore se réunir d'ici lundi pour coordonner les actions qu'elles mèneront. Une conférence de presse devrait être donnée cet après-midi.
Et on reste sur la visite du chef de l'État en Polynésie française avec une question. François Hollande se rendra-t-il à la stèle de Tavararo?
J-3 avant l'arrivée du président de la République au Fénois, avant de reprendre l'avion pour l'Amérique du Sud et après son passage à Papeete et Raiatea, le chef de l'État se rendra à Fa'a pour y rencontrer son ami et Tavana Oscar Temaru. Une revue de 15 à 20 minutes est prévue pendant laquelle le leader indépendantiste aimerait emmener François Hollande sur la stèle de Tavararo. Le reportage de Vaïté Oulali Pombra.
Selon nos informations, lors de la dernière venue du conseiller spécial à l'outre-mer du président Marc Visy, Oscar Temaro a demandé à pouvoir emmener son ami François Hollande sur la stèle érigée à Tavararo, non loin de la mairie. Une stèle érigée à la mémoire des héros de Faa'a, morts en 1844 au cours des combats contre les soldats français pour protéger leur île et leur indépendance. Le lieu est d'ailleurs celui du rendez-vous des indépendantistes chaque 29 juin en hommage à ces héros. Nous avons décidé de construire cette stèle pour rappeler l'histoire de notre pays, affirme le leader indépendantiste.
C'est une partie de l'histoire de notre pays. L'histoire rappelle qu'il y a eu ces guerres à Taravao et à Hénin. Il y a eu plusieurs centaines de victimes. C'est énorme pour un tout petit pays, pour un tout petit peuple. Ensuite à Habapé et à Faa'a. Hein. Et donc, c'est un devoir de mémoire pour nous et c'est comme ça que nous avons décidé de construire cette stèle pour rappeler l'histoire de notre pays.
Alors, vous avez invité François Hollande à s'y rendre. Est-ce qu'il va s'y rendre?
Ah ça, je ne peux pas vous dire maintenant. Je n'ai pas encore les détails de sa visite.
Pour certains, le déplacement à la stèle serait davantage un symbole de réconciliation entre les deux alliés politiques d'antan.
Et on passe à la politique avec le parti d'Edouard Fritsch qui s'appellera finalement Tapura.
Un choix qui sera officialisé demain lors d'un congrès constitutif organisé salle Aoretini-Ao à Pirae. Si plusieurs élus avaient choisi le nom de Mana Huiratira depuis quelques temps, ceux du Rassemblement pour une majorité autonomiste se sont réunis cette semaine avec les Tavana qui soutiennent le gouvernement Fritsch pour arrêter la décision. Un choix qui a fait l'objet d'un vote. Entre Temana Huiratira et Tapura Huiratira, la grande majorité des personnes présentes et notamment les Tavana a retenu le nom de Tapura. Les élus considèrent qu'il s'agit du nom légitime du parti puisque Lana Tetuanui et Nui Olore ont couru sous cette bannière lors des sénatoriales et que le Tapura est déjà connu dans les îles.
Un nouveau parti politique qui en chasse un autre puisque Atia Polinetia a voté sa dissolution.
Oui, c'était mercredi à l'occasion d'une assemblée générale organisée à la mairie de Papeete. Une centaine de cadres du parti a voté à la quasi-unanimité la dissolution de l'association politique à 3 jours de la formation du nouveau parti d'Edouard Fritsch. Seuls 3 militants ont voté contre cette dissolution. Leader historique de Atia Polinetia, Tevaro Fritsch, se dit aujourd'hui certain que la vision de la politique d'ATP pourra être portée par le futur parti d'Edouard Fritsch.
Et on reste en politique avec ces amendements jugés sur mesure qui font scandale à l'Assemblée.
Hier, les élus étaient invités à se pencher sur le statut particulier des pompiers d'aérodrome de la fonction publique de la Polynésie. Mais voilà, 2 amendements déposés par le rapporteur Antonio Pérez ont soulevé les critiques de l'opposition. L'un d'entre eux prenait en compte l'ancienneté des pompiers ayant travaillé dans des ministères, dans des cabinets de gouvernement ou encore à la délégation de la Polynésie. Et parmi les pompiers concernés, le compagnon d'une élue du RMA, Nicole Bouteau, présente dans l'hémicycle. Les 2 amendements ont finalement été retirés. Tiré par Antonio Pérez lui-même, le reportage de Vaïté Olali Ipambra.
Les élus de l'opposition semblaient particulièrement étonnés jeudi en séance lorsque le rapporteur de la délibération sur le statut des pompiers, Antonio Pérez, a déposé 2 amendements au texte du gouvernement. Ceci alors que le dossier avait été étudié en long, en large et sous toutes les coutures, lâche l'élu UPLD Anthony Géros, qui ne dit pas comprendre qu'au détour de ses heures de travail, on ait oublié d'intégrer cet amendement. Au final, l'opposition s'est étonnée que l'amendement s'applique aux compagnons de l'élu du RMA, Nicole Bouteau, et a dénoncé en séance une affaire de clientélisme et de favoritisme.
Du coup, ça fait naître un sentiment de suspicion vis-à-vis des élus. Et on s'aperçoit que finalement, c'est bien une affaire de clientélisme et de favoritisme qu'on ne peut pas accepter.
De son côté, Sandra Lévy-Agami s'est dit choquée par ces pratiques qu'elle considère être des magouilles.
À qui profite le crime? Et c'est vrai que depuis le dépôt de ces amendements ce matin, il y a eu des rumeurs selon lesquelles une élue de RMA aurait insisté pour que ces amendements soient déposés pour que son époux puisse bénéficier de ce statut particulier et que toute l'ancienneté qu'il a pu avoir au niveau de cabinet ministériel puisse être prise en considération. Ça s'appelle quand même des magouilles. Hein.
Nicole Bouteau se dédouane en affirmant qu'elle n'a pas assisté au débat, mais qu'elle a voté par procuration.
J'ai pas voulu assister au débat parce qu'effectivement, mon compagnon fait partie effectivement du corps des pompiers d'aérodrome. Donc j'ai estimé que je n'avais pas participé au débat.
Mais pourtant, vous avez voté par procuration.
Mais oui, j'ai la possibilité de participer. Il n'y a pas d'impact financier concernant ce dossier.
Les 2 amendements ont finalement été retiré par Antonio Pérez et le ministre de la fonction publique Jean-Christophe Bouissou a lui-même avoué à demi-mot que les amendements proposés étaient presque des passe-droits, mais que le texte voté finalement tel quel n'en autorisait aucun.
Il vaut mieux éviter d'avoir le tribunal administratif qui pourrait retirer l'amendement en question.
Vous n'aurez pas à trouver plus sage que l'élu dont on parlait tout à l'heure s'abstienne sur ce sujet.
De quel élu, pardon, donc ?
Une élue du RMA.
Vous savez, sur les 150 pompiers d'aérodrome, qui est cousin avec qui, d'après vous ?
Gratter. Mais là, c'est plus proche, c'est Santané.
Non, mais là, en l'occurrence, le texte en question n'autorise absolument pas de passe-droit. Et je crois que c'est dans cet esprit-là que ce texte a été voté ce matin.
Le compagnon de l'élu RMA, Nicole Bouteau, était présent dans l'hémicycle. Il se défend en affirmant que ce sont des règlements de compte entre les élus Orange et le RMA. Il insiste sur le fait qu'il était présent au sein de l'hémicycle en tant que représentant syndical.
Ils sont toujours dans la bataille d'opposition et la majorité, donc nous on n'a pas rentré dans ce débat.
Mais le fait que votre femme ait voté quand même pour ces amendements, ça vous fait pas...
Pourquoi vous me dites votre femme? Je ne suis pas là avec ma femme. Pourquoi vous me ciblez?
Mais c'est une élue.
Oui, mais pourquoi me ciblez? Là, je suis en tant que représentant syndical. Donc, elle ne me fait pas dire quelque chose...
Parce qu'en fait, ça a été évoqué au sein de l'Assemblée.
Oui, mais on a cité le nom. Est-ce qu'on a cité le nom?
J'ai cité aucun nom.
Voilà.
Et le compagnon de l'élu, Nicole Bouteau, de nous lancer à l'issue de notre interview un piquant. Fais attention à ce que tu vas écrire. Menace, l'intéressé s'en défend.
Et plus léger pour terminer, on parle culture et théâtre avec un fou noir au pays des Blancs.
8 ans après son premier passage en Polynésie, l'auteur Pichi Banda est de retour au Fénois pour interpréter un fou noir au pays des Blancs, l'histoire de sa vie d'intellectuel, témoin gênant d'une guerre qui a fait plus de 200 000 morts dans son Congo natal. Menacé, Pichi Banda a dû s'exiler en Europe et pour affronter ses souffrances, il a écrit. C'est ainsi qu'est née l'histoire de ce fou noir au pays des Blancs, un livre devenu une pièce de théâtre suite à une rencontre imprévue, comme il nous l'explique.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un Africain qui, dans son pays, est cadre d'une entreprise. Il a fini l'université, il a cheminé, et puis il est devenu cadre. Il dit, ouais, je suis arrivé. Mais juste au moment où on pense qu'on est arrivé, voilà la guerre. Et avec la guerre, l'exil. Et on se retrouve dans un autre pays. Le temps d'avoir le papier, le temps de faire les regroupements familiaux, ça peut durer 5 ans. C'est dur, dur. Alors moi, quand je souffre, j'écris. Et je commençais par écrire un livre qui s'appelle « Un fou noir au pays des Blancs ». C'est d'abord un livre. Mais une fois le livre écrit, un jour à Bruxelles, il y a une manifestation en faveur des sans-papiers. Et quelqu'un dit « Mais appelez un peu le monsieur qui a écrit le livre, là, il dit des choses intéressantes. » Et je suis arrivé. On m'a donné la parole pendant 5 minutes. Et pendant que je parlais, tout le monde s'est marré. Alors que moi, je pensais que je disais des choses sérieuses. C'est là que les professionnels de spectacle m'ont repéré. Ils sont venus me voir, monsieur, t'as vu ce que tu provoques? Si on t'avait donné 1 heure de parole, j'ai dit, mais j'aurais parlé. Et ils m'ont donné 1 heure dans une salle de théâtre où il y avait 300 personnes. Et c'est parti. La presse a pris ça, tout le monde en a parlé. Et maintenant, ça n'arrête pas. Je suis au-delà de 2500 représentations jouées à travers le monde entier.
L'histoire de Pichi Banda est donc celle d'un psychologue diplômé, immigré sans papier dans un pays dont il découvre les us et coutumes, un intellectuel qui décide d'aller à la rencontre de ceux qui le rejettent. En partant du principe qu'on ne craint l'autre que lorsqu'on ne le connaît pas, il a choisi le dialogue pour expliquer le vivre ensemble. On a tous à apprendre des autres, aime à dire l'auteur, même s'il a fallu forcer quelques portes pour se faire entendre et comprendre.
Je regarde autour de moi, je regarde la vie telle qu'elle se présente. Je me dis, mais tout ce que j'avais déjà comme richesse dans mon pays, expérience de vie, expérience professionnelle. Est-ce que c'est fini? Ou est-ce que je peux faire valoir ça ici? Et moi, je dis, tiens, je vais prendre des initiatives pour faire valoir ça. Alors, ce qui me choque, c'est d'abord d'être tout seul chez moi, à la maison. Je dis, mais non, je n'ai jamais vécu tout seul. En Afrique, on vit en famille. Mais ils sont où les gens? Eh bien, ils sont chacun chez lui. Surtout si vous avez marqué propriété privée n'entre pas. Il n'y a personne qui vient. Mais en Afrique, tu mets propriété privée n'entre pas. C'est comme si tu les invitais. Qu'est-ce qu'ils y mijotent? Ils viendraient voir ce que tu y mijotes. Hein? Et j'ai appliqué la même chose. Je suis allé sonner à la porte des gens. Bonjour, Pichi Banda, je viens du Congo. J'habite chez vous. Désormais, vous allez devoir compter avec moi. Ils m'ont pris pour un fou.
Écrite il y a 20 ans, la pièce est résolument moderne, d'autant que Pichi Banda l'agrémente des nombreuses rencontres qui jalonnent sa vie de messager. Cette pièce ne laisse personne indifférent et le fou n'est au final pas celui que l'on croit. D'ailleurs, Pichi Banda espère un jour renommer son spectacle Un Noir Saint au pays des fous blancs. En attendant cette prise de conscience généralisée, Un fou noir au pays des Blancs est joué au Petit Théâtre de la Maison de la Culture les vendredis et samedis à 19h30 et ce jusqu'au 5 mars et ça commence ce soir. Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour de Punaouya et Aroué. à Radio 1 Faréouté et en ligne sur notre site internet au www.radio1.pf.
Retrouvez l'info en continu
Radio 1.
Sur radio1.pf.